Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Existe-t-il encore sur cette terre des gens qui ne connaissent pas Maxime Dupuis ? Je me pose cette question tant je mesure la chance que j'ai chaque jour de le côtoyer et le malheur de ceux qui ne l'ont jamais croisé. Alors, si je devais le résumer en un seul son, ce serait celui-ci. Cette semaine, entre deux bouchées froides de sa pizza burrata, jambon de Parme, mayonnaise, rillettes du Mans, il m'a lâché une petite bombe, mais qui finalement réunit toutes les pièces de son puzzle personnel. Hey « Eh Martin, tu vas te foutre de ma gueule, mais moi j'adorais Derrick. Derrick. Derrick, c'est ça, Derrick. Vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez de ce vieux flic allemand ? Des épisodes de 59 minutes dont on a l'impression qu'ils durent 6 jours, c'est lent, c'est vieux. » Et Maxime qui rajoute juste derrière, non mais attends, ça n'a rien à voir avec Renard, c'est bien plus exceptionnel. Mais en fait, tout Maxime est là, son amour du vieux, du démodé, de la nuque longue, des maillots sans sponsor, des coupes du monde en noir et blanc, des matchs à la radio, de la coupe des clubs champions. Il faut savoir que tous les dimanches, avec son petit tricot qui lui gratte le torse et sa pipe, il va de brocante en brocante à la recherche de Subuteo ou d'images de l'OM 86 Panini. L'homme que vous écoutez a le physique d'un jeune gaillard, quoique de moins en moins, mais l'esprit d'un vieillard. C'est Jeanne Calment dans le corps de Pierre Ninet. Pierre Ninet, je suis gentil, Maxime. Comment ça va ?
Sympa. Ah bah ça va, c'est sympa ça, Pierre Ninet.
Ouais. Pierre Ninet, j'ai été pareil. Gentil. Tu vois, brun. Je pensais plus à Pierre Perret, mais je me suis dit, je vais dire Pierre Ninet.
Brun, fin, tout ça, tu vois.
Non mais explique-nous Derrick. Explique-nous Derrick, Maxime.
Mais non, mais je le répète, j'ai un amour immodéré pour tout ce qui se passe en Allemagne de l'Est et dans les pays derrière le mur de Berlin. Et je trouve que ça rappelle une époque, alors je ne vais pas être sérieux là parce qu'on va parler de ça, et bah, ceux qui sont fans d'histoire et qui élèvent un peu le débat savent ce que c'est. Et la chute du mur de Berlin, un événement exceptionnel, et je trouve qu'il y a quelque chose de suranné dans Derrick, et en effet, je maintiens. Alors, je n'ai pas dit que Derrick c'était exceptionnel d'ailleurs. Voilà, ça c'est, je remets les choses en place. Je dis simplement que, mais en effet, Derrick et le renard, ce n'est pas du même niveau, voilà. Et ça, je maintiens. Et si vous n'avez jamais vu Derrick, alors je ne sais pas si je vais vous conseiller de regarder.
Non.
Mais n'empêche que...
Non, non. Et on a quand même des jeunes qui nous écoutent là. Tu vois, ils ont démarré l'émission, ouais, ils avaient 15 ans. Là, ils en ont déjà 25. D'accord. Donc, on a arrêté de parler d'accord. de ça. Parce que...
Oui, c'est parce qu'ils n'étaient pas nés, c'est ça.
Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas nés, c'est parce que c'est vieux comme... Et ça fait vieux. Il y a des choses qui sont vieilles et qui ne font pas vieilles.
Mais Mozart, c'est plus vieux qu'André Rieu, et pourtant, c'est mieux. C'est comme ça. Et voilà, c'est la vie. Napoléon, j'étais pas né, donc, pourtant, je le connais.
Ok, donc Maxime compare Derrick à Napoléon et Mozart. Je crois qu'on peut arrêter là. Mais vous avez compris qui est Maxime. Vous comprenez un peu mieux. Hein, tout ce qu'il nous raconte dans le FC Stream Team, on va peut-être revenir au football, Maxime.
Bah, on va y aller surtout. Ouais. D'ailleurs, j'aurai un moment, je parlerai de l'année 1989. Donc, tu vois, on va pouvoir se retrouver au moment où l'Allemagne de l'Est était encore une réalité, où le mur de Berlin est encore sur pied.
On va aborder trois sujets, comme d'habitude, dans ce FC Stream Team. Déjà, on vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous voir, à nous écouter, à nous consommer, on va dire. De quelque façon que ce soit. Et d'ailleurs, Maxime ne trouve pas ça désagréable.
Ah, ça va beaucoup trop loin.
Que ce soit sur Facebook, le podcast, etc., les extraits sur les émissions. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Maxime?
Ouais, je voulais rajouter un truc. C'est si j'ai un regret que je partage avec vous, surtout vous qui ne nous voyez pas de pied en cap, c'est que vous ne pouvez pas voir actuellement les pieds de Martin.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, et voilà, on n'en dira pas plus.
Martin qui présente l'émission en chaussettes, voilà, il est à l'aise. Tu as dit, je le comprends. T'es sur une moquette. Moi, pareil, moquette. J'aime pas
marcher
contact
sur les moquettes. C'est comme ça.
Chose
du 46, ça me fait des grands panards. Je veux être à l'aise. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais je trouve qu'il y a un manque de respect pour la moquette de marcher dessus avec des chaussures aussi.
Et puis il y a un manque de respect pour la chaussette. Je veux dire, la chaussette est complètement dévaluée, alors que c'est un objet de mode comme un autre. Bref. On y reviendra un peu plus tard ou pas d'ailleurs. Trois sujets, Maxime. On va démarrer avec un sujet Neymar, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez lu sur Eurosport.fr. Neymar qui regrette qu'on ne le considère pas à sa juste valeur. Voilà, il estime qu'il n'est pas assez respecté dans son pays. Donc le premier sujet, il est clair, il est cash. Avec Maxime, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on est trop sévère globalement avec Neymar, avec sa carrière, avec ce qu'il nous donne chaque week-end, chaque semaine avec Paris ou avec le Brésil. Ce sera le premier sujet de l'émission, Maxime. Et ensuite, on enchaînera avec.
Ouais, bah le deuxième, je vais être court pour une fois, tout simplement, Donnarumma, Navas, et c'est une bonne idée de les avoir mis dans les pattes l'un de l'autre, surtout d'avoir mis Donnarumma dans les pattes de Navas. On va débriefer ça, alors que, a priori, Donnarumma devrait jouer contre Clermont en Ligue 1 samedi.
Et on terminera avec la Ligue des Champions qui fait son retour mardi, la phase de poule. Bon, on vous donnera tout simplement nos favoris pour la Ligue des Champions. Vous connaissez le système, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Est-ce que Paris est absolument seul au monde ? Est-ce que Paris est l'extra favori de cette compétition ? Eh bien, il faudra rester avec nous jusqu'au bout. On remercie Adrien Yoder à la caméra, on remercie Quentin Guichard au visuel, et puis on peut y aller, Maxime.
Ouais, et d'ailleurs, alors Quentin ne pourra pas le dire, Adrien peut-être à peine, mais je suis sûr que Quentin et Adrien ont déjà regardé Derrick.
Je ne suis pas certain. Non, je suis. Alors
là, à d'autres,
mais nous,
et Quentin,
nous, toi, quand tu regardais Derrick, nous, on regardait Sauvé par le Gong, Max. C'est voilà. C'est
mais je... eh, non, c'était juste après. Mais je regardais Sauvé par le Gong aussi. Voilà.
Vous avez l'impression qu'avec Max, on a le même âge, mais pas du tout. Bon, déjà, si vous écoutez, peut-être vous pouvez avoir cette impression. Si vous nous regardez, bon, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, à un moment donné, l'image ne trahit pas. Enfin, voilà, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, vous comprenez qu'il y a un petit fossé générationnel.
À un moment, je vais avoir intérêt à dire que j'ai genre 15 ou 20 ans de plus que toi. Parce que ça va se retourner en ma faveur à dire « Ah, oh, mais il fait plus jeune que ce qu'il dit. » Et c'est Martin qui fait plus vieux.
Donnez-nous un âge donné sur Twitter, les trucs de podcast, enfin les plateformes de podcast, excusez-moi, les trucs, ça ne va pas du tout. On démarre, Maxime ?
On démarre.
Le Brésil a battu le Pérou. C'était dans la nuit de vendredi, de jeudi à vendredi. Et à l'issue de ce match, Neymar a marqué. Il a soulevé son maillot pour montrer qu'il avait des abdominaux et non pas une bedaine qu'on décrit depuis quelques jours. Ouais. Commence pas, Maxime, calme-toi. La question, elle est simple. Et donc après ce match, Neymar a dit devant les journalistes « Je ne sais pas ce que je dois faire de plus pour que les gens commencent à me respecter. » Voilà. Maxime, ma question, elle est simple. Est-ce qu'on est trop sévère avec Neymar Junior ?
Alors, on est souvent sévère avec les gens qui ont un talent d'exception, tout simplement. On est rarement sévère avec les gens médiocres. On en attend toujours plus. Quand il dit « je ne sais pas ce que je dois faire de plus avec ce maillot pour que les gens commencent à me respecter », moi, j'ai bien une idée à lui proposer, c'est de gagner la Coupe du Monde, bizarrement. Et généralement, au Brésil, ça marche plutôt pas mal quand on gagne la Coupe du Monde. C'est un pays qui a gagné évidemment 5 Coupes du Monde. Pelé en a gagné 3, c'est le recordman absolu. Le Brésil a connu une disette énorme entre 70 et 94. Et puis, ça s'est un peu mieux enchaîné. Et puis, depuis 20 ans, l'année prochaine, le Brésil n'aura pas gagné de Coupe du Monde. Il faut comprendre que dans ce pays-là, évidemment, d'avoir gagné les JO deux fois de suite, d'ailleurs 2016 et 2021, ce n'était jamais arrivé au Brésil, n'avait jamais gagné les JO. Neymar a fait partie de cette équipe-là qui a un peu exorcisé le drame de 2014, de cette Coupe du Monde à la maison du 7-1 face à l'Allemagne. Mais n'empêche que ça ne pèse rien dans un pays comme ça. Il faut savoir ce que c'est le Brésil. C'est le plus grand pays de football au monde et le Brésil attend autre chose de Neymar. Ce qui m'embête un peu, et là où je pense où il se trompe, Neymar, déjà quand il monte les abdominaux 4 semaines après, ah oui, évidemment, j'ose espérer que 4 semaines après, il n'a pas ce léger rebond abdominal qu'il avait, parce que sinon, ça dirait quelque chose de sa préparation. Là où il se trompe, Neymar, c'est qu'après, évidemment, il parle de Pelé, du record de Pelé, 69 buts, etc., que Pelé en a 77, et qu'il semble quand même très, très intéressé par ce record. Ce qui est normal, mais il faut lui expliquer aussi à Neymar que le football est une affaire de collectif et que ça ne suffira pas. Il peut marquer 150 buts avec le Brésil, ça ne le mettra pas devant les glorieux que sont Neymar, que sont Ronaldo, que sont voire même Ronaldinho, on en parlera peut-être après. Parce qu'évidemment, le Brésil, c'est un football qui gagne et qui ne jure que par la Coupe du Monde. Donc voilà. Après, le problème qu'il a, Neymar…
Encore faut-il qu'il soit bien entouré quand même. Parce que tu parlais de Ronaldinho. Ouais. Quand il gagne la Coupe du Monde, à côté de lui, il y a Ronaldo et Rivaldo. Il n'y a pas Gabriel Jesus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Mais alors là, c'est toujours un argument qui peut se retourner dans les deux sens. Neymar, on attend de lui qu'il tire les autres vers le haut. C'est aussi ça. Il l'a fait en 2014.
Ah, il l'a fait. Merci. Il s'est blessé.
Il s'est blessé. C'est pas de chance, mais il l'a fait. C'est vrai que c'était un Brésil qui était tétanisé, qui n'était pas forcément hyper talentueux, mais il y avait lui. Voilà. Et n'empêche que l'histoire et son histoire et sa légende s'écrira à l'aune de ça. Il n'a pas de peau. Il n'est pas tombé dans le Brésil 70 avec Jairzinho, avec tout le monde. Mais sauf que c'est comme ça.
Mais Messi et Ronaldo non plus n'ont pas gagné la Coupe du Monde, d'ailleurs, Maxime. On est moins sévère avec eux. Et moi, je pense… parce que tu as fait une heure et quart, là, environ. Donc je peux
justement, tu m'avais lancé, donc je vais rebondir après là-dessus.
Je peux peut-être parler 30 secondes. Neymar, c'est un gamin. À 18 ans, on lui fait porter déjà, et tu l'as dit, Maxime, tu as très bien expliqué, tous les espoirs du Brésil reposent sur ses épaules. Il y en a qui se sont complètement crachés. Je pense à Robinho, mais il y en a eu avant lui, il y en a eu des tonnes et des tonnes. 10 ans plus tard, ce qu'on peut se dire quand même de Neymar, c'est que sa carrière n'est pas dégueulasse. C'est qu'il a absolument tout gagné en club. On peut discuter de plein de choses, mais il a tout gagné en club. Le Brésil, il tombe pas quand même dans la meilleure génération. En sélection, on ne peut pas dire non plus que ce soit un cataclysme. Il marque beaucoup, énormément de sélections. Il gagne les JO. Et j'allais parler de la Coupe du Monde 2014 aussi, où il est plutôt très très bon. Bref. Et surtout, sur ces 10 ans, quand même, il s'est installé parmi les meilleurs joueurs du monde. Si bien que si on prend les 10 dernières années, pour moi, il s'installe facilement dans le top 10 des joueurs dans le monde et quasiment dans le top 5. Le problème, c'est qu'on compare à Messi et à Ronaldo. Maxime, je te vois opiner du chef. Mais laisse-moi terminer, je sais que
c'est... Ah non, j'opine pas, justement.
Je sais que c'est compliqué. Juste, on le compare à Messi et Ronaldo, sauf qu'il n'est pas fait du même bois, sauf que ce n'est pas le même joueur. C'est ni Messi, ni Ronaldo. Ce n'est pas un bourreau de travail. Ce n'est pas un mec qui va se consacrer uniquement au foot. On lui reproche de jouer à la console jusqu'à 4h du matin. On lui reproche de prendre un peu de bon temps l'été et de revenir effectivement un peu rembourré. Mais si il décroche pas l'été et si il joue pas sur la console jusqu'à 4h du matin, sans doute qu'il ne fait pas la carrière qu'il fait parce qu'il a besoin de joie, il a besoin de tout ça. Il s'exprime comme ça et il se réalise dans ce mode de vie-là. Voilà, je ne veux pas prendre le cliché des Brésiliens, mais voilà, c'est comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du jugement immédiat, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Maxime, tu l'as suffisamment ici expliqué, tu t'en es souvent offusqué pour ne pas le reconnaître ici. On juge quelqu'un, on le juge systématiquement, on le descend parce qu'effectivement, il présente un gros ventre, etc. Mais Neymar, en tout cas, il a réalisé les promesses qu'il a semées en début de carrière. Il est dans le top du top. Voilà, il est dans le top du top. Oui, il n'a pas gagné de Coupe du Monde. Oui, il est blessé, il est beaucoup blessé, etc. Malgré tout, si on prend sa carrière et si on prend en moyenne, ça reste exceptionnel. Et je finirai là-dessus. Aujourd'hui, donne-moi un joueur qui fait plus de différence que lui sur le terrain. Donne-moi un joueur qui est capable de faire ce qu'il a fait face au Bayern en quart de finale, en début d'année, ce qu'il a fait lors du Final 8 en 2020. C'est un joueur exceptionnel, et je pèse mes mots, et c'est celui qui fait le plus de différence sur un terrain, tout simplement. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on est effectivement sévère, mais c'est un peu dans l'air de cette époque-là.
Il y a 5 ans ou 6 ans, on va dire autour de 2015, même un peu avant, c'est le troisième homme. C'est celui qui est censé être le successeur. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui avec Neymar ?
Mais Maxime, s'il y avait eu un ballon d'or l'an dernier, s'il n'y avait pas eu la pandémie.
Oui, Robert Lewandowski.
Oui, mais je pensais qu'il était. Moi, je l'aurais mis dans le top 3 et je pense qu'on aurait été nombreux à le faire.
Oui, donc, mais ça fait pas un ballon d'or.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus. Non,
mais est-ce que le Neymar d'aujourd'hui est un meilleur joueur qu'il était en 2015 ? Bah, la réponse est non. Et comme tu dis, évidemment, sur une note moyenne de carrière.
Mais ça compte, ça, Maxime.
Il fait la carrière que 98%, 99% des footballeurs ne feront pas. Mais n'empêche qu'on est. Je pense que le Brésil, parce que le départ c'était le Brésil, que le Brésil a raison d'être sévère et de demander beaucoup d'un joueur qui est un joueur d'exception, tout simplement. Et tu me citais tout à l'heure les deux exemples, j'aurais même rajouté Kylian Mbappé dedans. Qu'est-ce qu'on reproche en fait à Neymar que l'on ne reprocherait pas à Messi, à Ronaldo ou à Mbappé ? Ce n'est pas le talent, ça c'est sûr. Parce que, encore une fois, c'est un talent d'exception. Et comme tu l'as dit, même si moi, j'ai tendance à parfois penser que quand il dribble un joueur, ce n'est pas la peine de revenir pour le redribbler une deuxième fois.
Ça s'est arrivé deux fois, Maxime.
Et attends, mais je pense que ce qu'on lui reproche et qu'on ne reprochera pas aux autres, même si Messi, des fois, on sait que bon, il n'est pas le plus assidu aux entraînements à se faire mal. Mais c'est leur professionnalisme et leur implication, tout simplement. Tu ne reprocheras jamais à Mbappé, avec tous les défauts qu'on lui trouve aujourd'hui, Mbappé, de lui dire que le mec n'est pas pro et pas impliqué. Voilà. Et le problème avec Neymar, et que je peux comprendre, c'est le prix à payer. Il a envie de vivre la vie qu'il a envie de vivre, comme tu dis, jouer à la console jusqu'à 4 heures, jouer à Call of Duty, faire ce qu'il veut. Eh bien, il faut assumer après ces critiques-là, tout simplement. Ronaldo, tu ne le reprocheras pas ça, tout simplement. Parce que Ronaldo, c'est une machine. Alors, comme tu l'as dit, il n'est pas fait du même bois. Il n'y en a pas 15 des comme ça. Ça voilà. Serait. Mais oui. N'empêche qu'on attendait un peu ça de Neymar. Et après, ce qui est intéressant, c'est que… Alors après, il y a autre chose. On peut aussi être fêtard et être un peu enjoué, comme tu dis, sans être dénigré. On va prendre l'exemple de Ronaldinho. On en a parlé tout à l'heure. La différence entre Ronaldinho aussi et Neymar, c'est que c'est un peu… Dans l'esprit, le football, on a envie de le football plaisir. Sauf que quand Ronaldinho jouait, alors la carrière a été moins longue, évidemment, voilà. On va dire au très très haut. Voilà. Oui, voilà. Sauf qu'il y a une Coupe du Monde, un Ballon d'Or.
Ouais, mais encore une fois, il n'était pas entouré pareil. Mais bon, bref.
Mais ça me fait marrer. Ah bah si, en club.
Non, je te parle en sélection.
Ah, c'est ah, oui.
ça. Oui.
Eh ben ouais, mais bon. Et tu vois, ça suffit pas parce qu'en 2006, son super, la Seleção est très belle et elle n'est pas championne du monde. Donc ça veut dire, bon, bref. En tout cas, et je tiens à dire qu'en 2002, quand ils arrivent au mondial, ils sont tous aux favoris, les Brésiliens. Donc c'est aussi eux qui se sont écrits leur propre histoire. Ce que je veux dire aussi, ce qu'on lui reproche aussi, je pense que c'est une attitude, et ça, il ne pourra rien changer parce qu'il est comme ça. C'est-à-dire que quand Ronaldinho faisait trois dribbles et des fois vous humiliait sur le terrain, il faut le dire, on l'a vu même en championnat de France, bah, il y avait un sourire derrière. C'était un sourire enjoué. Neymar, il y a toujours ce petit côté, ce sourire un peu narquois qui passe moins bien. On le voit sur les terrains, tout simplement. Et ça, c'est sa façon d'être. Et je pense que ça participe à un personnage
Mais
qui
est-ce que
peut
c'est
parfois
normal que tout
agacer.
ça prenne le dessus sur ses performances propres, qui restent,
Mais c'est quoi ces per... Alors, ouais,
qui
on
restent
peut parler.
exceptionnelles? Bah si, Maxime, qui
Ah
restent
non, mais
exceptionnelles.
alors, si ses performances sont exceptionnelles, comment tu juges celle de Ronaldo et Messi? Le type est tout le temps blessé en championnat, en France. Il a joué. Non, mais ce que je veux dire, c'est aussi ça. Alors, c'est pas toujours de sa faute, en effet. Le pied, la première fois. La deuxième fois, c'est un tout petit peu, je pense, il est un petit peu responsable. Parce que je peux comprendre qu'il veut jouer le mondial. Donc, il revient vite et qui se fragilise. Enfin, moi, je veux bien qu'on en fasse un chantre de professionnalisme et
J'ai pas dit
d'implication. Mais
ça.
c'est... Eh
J'ai
oui,
pas
mais
dit ça.
c'est... je pense que ce qu'il y a dans les reproches, entre guillemets, ce qu'on lui reproche au Brésil notamment, c'est ça. Et encore une fois, le jour où il changera ça et où il gagnera, par exemple, une Coupe du Monde, tout sera oublié. Il deviendra vénéré comme les autres. Le problème, c'est qu'il n'a pas de chance. Il est né dans un pays où il y a des footballeurs immenses. C'est le pays du football. C'est le pays qui a gagné 5 Coupes du Monde. Il y aura toujours cette ombre-là et il fera toujours un peu moins bien s'il n'arrive pas à atteindre ce grade-là. Parce que tu as dit en club, ouais, c'est bien club. Mais le Brésil, les clubs, ils s'en foutent un peu. Parce que ce n'est pas ce qui se passe au PSG ou au Barça qui les intéresse, c'est ce qui se passe à la Seleção. Déjà qu'ils en sont privés en général parce que l'équipe de Brésil joue souvent ses matchs en Europe. Bah, ils ont envie d'arriver au Graal et le Graal, il n'y en a qu'un au Brésil. Qu'on le veuille ou non, c'est le mérite et c'est la grandeur et la difficulté de ce pays, c'est la Coupe du Monde.
On est bien d'accord là-dessus, Maxime. On a fait le tour du sujet ou t'es encore énervé sur Neymar ou je te pique encore un peu?
Non, mais c'est pas
Non, mais
d'être.
voilà, et
Non,
voilà,
mais je suis pas.
Neymar, tu vois,
Non, mais je
tu
suis pas
déconnais
énervé.
comme si
Bah,
je
tu
l'avais
dis ça,
fait.
mais je trouve que
Moi,
je
je
redis,
trouve
on
qu'on
est
est sévère
sévère.
avec lui, c'est-à-dire qu'on va tenir, on va retenir ça. Aujourd'hui, septembre 2021, on a oublié ces deux matchs face au Bayern, complètement. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié ça. Pourquoi? Parce qu'il a un gros bide sur un bateau pendant les vacances. Voilà.
Mais oui, mais là, la question se pose. C'est pas là, c'est pas moi qui compte. C'est le Brésil. Le Brésil, c'est deux matchs contre le Bayern. Enfin, d'ailleurs, le deuxième. Bon, voilà. C'est
Si,
pas.
il fait un bon match le deuxième. Bon, le
Ouais.
premier,
Alors,
il est
c'est
exceptionnel.
devenu un
Il est
bon match.
exceptionnel au
Non, mais ce
premier,
que je veux dire,
mais il
c'est
donne
que.
caviar sur caviar quand même.
Oui, mais le problème, c'est que le Brésil, ça, il s'en fiche. Alors, quand il se plaint de Fossi, en fait, ce qu'il y a, c'est un truc qui est
Il est
général.
reparti, il est reparti.
Mais non, mais il faut aussi avoir du recul sur soi-même. C'est-à-dire qu'ils se disent aussi, bah, il y a peut-être des trucs que je fais pas forcément bien, que je pourrais faire mieux. Et en effet, d'avoir peut-être 2-3 kilos de trop les vacances, c'est fait pour s'éclater. Il n'empêche qu'il est footballeur
Mais
professionnel.
il est pas fait comme ça, tu sais très bien, il n'est pas fait de ce bois-là.
Donc, mais.
C'est pas Ronaldo, c'est pas Messi. Il
Ah,
peut,
mais il faut l'assumer.
il peut, ça peut pas être un moine, Neymar. C'est
Mais
impossible, parce que ça ne marcherait
qui.
pas comme ça. Ça ne marcherait pas. Tu le briderais et son talent ne
Oui,
s'exprimerait pas de la même
alors,
façon. Mais ça, j'en suis intimement
alors je
convaincu.
vais te poser une question. Est-ce que ce joueur-là, comme ça, peut un jour gagner la Coupe du Monde?
Ah oui, c'est possible. Ah bah c'est possible. Ah bah si, Maxime, c'est possible. En tout cas, comme ça, il fait partie des allez, 5 meilleurs joueurs du monde. Ce qui est déjà pas si mal.
Non. Ça y est, recommence avec les 5 joueurs
Non
du monde. Bref.
mais si, c'est
On en
Messi.
a parlé avant l'émission, donc voilà. Mais bah écoute, oui, si
Il
tu
y en a
veux,
un
mais
qui me
bon.
fait on passe, on passe, on
Non, mais
passe.
Adrien, on va mettre les choses au point. Adrien, c'est une émission de débat, de discussion. On n'est pas sur TikTok. C'est pas des vidéos de 15 secondes, Adrien.
Ah bah non,
Hein?
malheureusement, parce que toi sur TikTok, Maxime, oh, il y aurait sujet, verbe, mais il n'y aurait pas le complément. Ça, c'est sûr. Les phrases sont tellement longues, elles durent tellement longtemps. On dirait, hey, les argumentaires de Maxime, on dirait des épisodes de Derrick.
Ah ouais, mais.
Et ouais, mais voilà, et c'est pas Renard.
C'est pas Renard, non.
Voilà. Allez, on va passer au deuxième sujet, parce que samedi, justement, dans les cages du Paris Saint-Germain, dans la cage du Paris Saint-Germain, bah, ça devrait être Gianluigi Donnarumma, parce que Keylor Navas était au Costa Rica pour faire des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, comme Neymar en Amérique du Sud, et donc il ne devrait pas jouer ce week-end. Donnarumma débarque, et on va se poser cette question avec Maxime. Donnarumma Navas, est-ce que c'est bon comme ça de maintenir une concurrence entre deux gardiens sans hiérarchie claire? Je vais vous lire une déclaration qu'a fait Mauricio Pochettino en conférence de presse vendredi, donc sur ses gardiens. On n'a pas encore décidé qui sera dans le but, on a différentes options et Gigi en est une. Maxime, sur ce point-là, au moins, on se rejoint. Deux gardiens, on ne définit pas de hiérarchie, il y a un flou. Et quand il y a un flou,
Il y a un loup.
Il y a un loup.
Ouais. Déjà, première chose, en préambule, je voudrais dire que d'avoir 9 gardiens sous contrat comme à le PSG, c'est une aberration absolue. Je veux dire, sportivement, c'est complètement aberrant. Regardez la situation d'Areola, qui est un gardien. On en pensera ce qu'on veut. Je pense que c'est un très bon gardien. Mais quand on est prêté 6 fois par un club, c'est pas possible. Voilà.
Et quand on a été mis en concurrence à chaque fois et pas installé dans un fauteuil, on en revient sur ce sujet-là.
Voilà. Après, il a ses torts. Etc.
Bien sûr.
C'est sûrement, nous, on n'est pas des techniciens, on va dire, du poste. Et sûrement qu'il avait des défauts qui faisaient qu'il fallait changer. Et puis la preuve a été donnée, c'est que Paris, finalement, a trouvé la solution avec Navas. Navas, qui venait du Real Madrid, qui était très bon, évidemment, avec le Real, c'est pas la peine de le rappeler. Bah, Paris a trouvé son gardien. Et puis, cet été, bah, il s'est trouvé qu'il y a eu une affaire à faire. Ça, on verra. Donnarumma était libre, gros salaire, mais libre. Et du coup, le PSG a mis Donnarumma dans les pattes de Navas. Moi, je veux le dire tout de go, je pense que ça n'a jamais été une bonne idée de faire ça. Gardien de but, c'est bête à dire, c'est un poste à part. Vous avez remarqué que c'était le seul qui jouait avec ses mains, qui avait des gants, qui n'avait pas le même maillot et qui a besoin de confiance. Tout le monde a besoin de confiance, sauf que lui, c'est le dernier rempart. C'est comme si vous mettiez, je ne sais pas, vous avez un démineur et vous lui mettiez un autre démineur dans les pattes, il faut déminer une bombe, dire oh, l'autre il est meilleur que toi, etc. C'est un pompier de luxe, un gardien. Et un gardien ne peut pas être. Sa confiance ne doit pas être brisée. Parce que lui, quand il y a une erreur ou que ça se passe moins bien, eh ben, ça, c'est vous le payez cash dans une équipe, c'est pas comme un buteur, même si le buteur est peut-être ce qui se rapproche le plus,
ouais.
Puisque c'est les deux finalités du football. Et moi, je trouve personnellement que Navas est un petit peu moins bon lors de cette reprise de championnat. Voilà. Je le trouve un peu moins bon sur sa ligne, tout simplement. C'est peut-être une impression, c'est peut-être un hasard, mais il n'empêche que je trouve qu'il est moins bon. Vas-y.
Et ce qui est dur, c'est qu'en plus, Navas, il lui reste encore sans doute 2-3 ans au très haut niveau, qu'a priori, de ce qu'on sait, de ce qu'on nous a dit, il a quand même une hygiène de vie et il a un professionnalisme à toute épreuve. Donc, il était parti pour quand même durer un petit peu, que Paris était sur une autoroute avec lui. On a vu ces dernières. On avait eu ce débat ici, je crois, mais on avait dit que c'était quasiment la meilleure recrue de ce Paris Saint-Germain-là. Bien sûr, parce qu'ils l'ont eu pour une bouchée de pain, mais surtout parce qu'il est venu sécuriser un poste qui, jusqu'ici, était soumis à la peur, au turnover. Il n'y avait que des mauvais choix qui étaient faits. Navas avait prolongé jusqu'en 2024 et là, on vient lui mettre Donnarumma. Navas-Donnarumma, ça me rappelle un peu Courtois-Navas au Real Madrid. Alors, vous me direz que Navas avait gagné la Ligue des Champions, donc le Real avait gagné la Ligue des Champions. Mais souvenez-vous de Courtois qui était dans une insécurité permanente et, comme par hasard, depuis que Navas s'en est allé, depuis qu'on a mis une doublure, on va dire, qui a un statut de doublure à Thibaut Courtois du côté du Real Madrid, et ben Courtois est redevenu l'un des meilleurs gardiens du monde. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être. Peut-être qu'il a fallu qu'il s'adapte à Madrid, etc. Mais j'en suis pas sûr. On peut prendre l'exemple du Paris Saint-Germain. Areola trappe, Sirigu trappe, ça ne marchait pas. Parce que, pourquoi? Chaque fois qu'il y en a un qui faisait une boulette, il y avait caméra et réaction sur le gardien, sur le banc de touche, pour voir s'il se réjouissait ou pas. Ça va pas, tu as tout à fait raison, et là je te rejoins. Depuis que Paris avait établi une hiérarchie claire, c'est-à-dire Navas numéro 1, Rico numéro 2, eh ben, il n'y avait plus aucun problème. Parce qu'en installant un numéro 1 et un numéro 1 bis, ou deux numéros 1, on les insécurise. C'est aussi simple que ça. Et on en parlait avec Christophe Louichon au moment de faire un article sur Donnarumma pendant l'Euro, qui disait que donc gardien, entraîneur des gardiens quand même à Chelsea, responsable de la performance des gardiens à Chelsea, c'est pas n'importe qui disait que lui n'était pas du tout fan de ça. Parce qu'effectivement, avoir deux numéro 1 et pas d'hiérarchie claire, et bah chacun marche sur des œufs, chacun a peur de la faute qu'il mènera dans la bis. Et on ne peut pas fonctionner comme ça.
Et puis, en fait, l'idée des grands clubs et des clubs qui comptent, c'est de doubler les postes, de sécuriser. Or, le paradoxe, là, c'est qu'on double et on insécurise ce poste-là. Parce que gardien de but, c'est, mais vraiment, je le redis par l'absurde, il n'y en a qu'un qui joue.
Et donc, on est en plus sur un poste où il y a assez peu de blessures. Donc,
oui,
finalement, tu n'as pas besoin d'avoir une doublure non plus.
Et tu sais que quand tu sors, tu ne vas pas rentrer d'aussitôt.
Ouais.
Tu parlais de Courtois-Navas, tu as le côté aussi… il y a une petite mode à un moment. Alors, je sais que l'AC Milan a fait un peu ça au début des années 90, fin des années 80, avec Pazzagli et Galli, à faire un peu tourner. De mémoire, Galli jouait plus la C1 et Pazzagli un peu plus le championnat. Mais ça marche pas. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, ça dure pas. Barça a fait ça en 2015 avec Ter Stegen et Bravo. Bravo jouait le championnat, Ter Stegen jouait la Ligue des Champions. Mais à l'arrivée, en fait, c'est frustrant pour les deux. Parce que là, ils ont gagné, OK, la Ligue des Champions, Mais à quel moment Ter Stegen ne peut pas jouer 30 matchs de plus dans l'année? C'est le poste de gardien de but, c'est pas non plus un poste qui est soumis aux mêmes problèmes athlétiques, aux mêmes exigences athlétiques. Et à la fin, vous frustrez un gardien qui ne joue que la Ligue des Champions, donc autour de 15 matchs, et l'autre qui, lui, est privé de la Ligue des Champions. Enfin, c'est particulier. Et si, globalement, les gens, les entraîneurs aujourd'hui ont un peu arrêté ça, c'est parce que c'est bon pour personne. Encore une fois, c'est un poste à part. Mais il y a eu cette mode-là, un moment, d'ordre de gardien. Et le pire avec Paris, c'est qu'ils n'essayent même pas de faire ça. Et c'est peut-être mieux, d'ailleurs, de pas séparer les deux. Et le problème, moi, pour moi, Navas, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, mais je pense qu'il est condamné, tout
Elle est condamnée.
simplement. C'est Donnarumma, il a pris le risque de venir. Parce qu'il est jeune, évidemment, donc il dit qu'il a le temps. J'ai du mal à penser qu'un gardien comme ça, de ce talent, de cette stature, de cette ambition, qui est champion d'Europe avec l'Italie, qui est meilleur joueur de l'Euro, se dise, en plus de ne pas vouloir être prêté, se dise, non, mais je vais attendre pendant un
Mais
an,
oui,
ça
mais
va
bien sûr,
aller.
ça
Et
n'existe
d'ailleurs,
pas
pourquoi
ça.
un an? Puisque dans un an, normalement, il a encore ce contrat,
Bah,
Navas.
2024, donc il y en a
Voilà.
encore pour quelques saisons, hein.
Moi, mon avis, c'est que Navas est malheureusement
Bien sûr.
condamné, qui sent venir le coup près. Et que ça ira de moins en moins bien.
Et c'est terrible
Navas.
parce que Navas est le joueur le plus régulier du Paris Saint-Germain
Ouais.
depuis 2 ans. Il est plus régulier que Neymar, on en parlait tout à l'heure, que Mbappé. C'est-à-dire que lui est irréprochable. On n'a rien, absolument rien à dire sur Keylor Navas. Et c'est lui qu'on vient fragiliser. Moi, c'est ça que je comprends pas. S'il y
Oui,
avait
mais.
une fragilité sur ce poste-là, si même on avait un grand nom, mais on sentait que, je sais pas, soit il est vraiment en fin de carrière, soit sur les gros matchs, il y a un déclic qui passe pas, soit le mec, il a gagné des Ligues des Champions depuis qu'il est au PSG. En plus, il fait le lien dans le vestiaire, c'est-à-dire que c'est le joueur qu'il fallait pour Paris. Depuis qu'il est là, Paris est allé en finale Ligue des Champions, a atteint une finale. Ça peut être un hasard, mais ça l'est peut-être pas aussi. C'est ça que je comprends pas. Alors, on parle d'opportunité Donnarumma, ok, mais est-ce que ça vaut le coup de faire l'opportunité Donnarumma et de fragiliser tout ce que Navas a apporté? Pour moi, c'est un vrai risque.
Ouais, parce que acheter, on peut toujours acheter. Il y a toujours des opportunités dans l'absolu. Il peut terminer à 50 joueurs chaque fois qu'il y a un joueur libre. Au-delà de ça, c'est un poison pour le gardien de but et c'est aussi un poison aussi pour l'entraîneur. Parce que prenez l'exemple de Donnarumma qui va probablement jouer contre Clermont. Il fait un bon match contre Clermont. Il est irréprochable, on va dire, ouais, il est bon. Et donc Navas, il dit, bah oui, il est bon. Bah, Pochettino, il sait aussi que les deux sont bons. À partir du moment où il n'est pas clair dans ses choix, ça va poser problème. Et moi, li limite, je serais Navas, je rentrerai dans le bureau de Pochettino, entre quatre yeux, je dirais, qui est le numéro un? Voilà, tout simplement. Parce que c'est du non-dit. Évidemment qu'il y a une concurrence, évidemment qu'il y a un besoin comment dire, de performance. Mais jusqu'ici, comme tu l'as dit, Navas, il n'a pas déçu. C'était le gardien. Comptez quand même que depuis l'arrivée de QSI, ça a été un poison, cette histoire de gardien. Ça les a empoisonnés pendant des années. Trouver le bon, la concurrence. Trapp, ça n'allait pas. Sirigu, ça n'allait plus. Areola, ça n'allait pas. Et puis, ils ont trouvé Navas. Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils font juste derrière? Ils lui mettent Donnarumma dans les pattes. Donc c'est très compliqué. Et je pense aussi, Navas, il y a un truc dont on n'a pas parlé. On aurait pu en parler d'ailleurs avec Christophe Loluchon. Je pense qu'il aurait opiné du chef pour le coup. C'est que je pense que Navas n'est pas dans les canons aussi des gardiens actuels. Il est trop petit. 1,85 m. Donc on se dit, ah ben oui, c'est pas mieux. Alors quand vous voyez Donnarumma qui est géant, qui a des bras qui prennent toute l'envergure du but, etc., ça impressionne plus. C'est dans les canons actuels. Donc il a aussi ça pour lui. Il est jeune, il est grand. Je pense que Navas perdra sa place au courant de l'année et on reviendra en parler, je pense, ici, parce que la situation est très compliquée pour Navas, qui ne peut pas bien vivre cette situation.
Alors, qui jouera en Ligue des Champions, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'en revanche, il y aura une saison de Ligue des Champions, Maxime. Comme chaque année, on a décidé, Maxime et moi, de vous livrer nos favoris pour la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cet été sur le marché des transferts. Est-ce que ça change complètement le visage des favoris? Est-ce que ça change la hiérarchie? Eh bien, on va vous donner la réponse tout de suite avec Maxime. On va démarrer peut-être tout en bas avec les équipes auxquelles on n'a donné qu'une seule étoile. Et là, curieusement, Maxime, on va retrouver des équipes qui d'habitude figurent tout en haut, mais qui connaissent un déclassement certain, voire un certain déclassement.
Ouais, et j'ai l'impression que ces équipes avaient senti le déclassement venir, parce que comme par hasard, c'était des équipes qui avaient très envie de jouer la Super League, dont deux qui sont toujours
C'est
engagées
vrai.
dans le projet, il faut le dire, parce que le projet est mort, mais il n'est pas encore enterré. C'est le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Évidemment, on a ajouté l'Inter Milan. Alors pourquoi? Bah, tout simplement, déjà, à la base, ce sont des équipes qui sont souvent des prétendantes, hormis peut-être l'Inter, évidemment. Bah, regardez les effectifs, comparé avec l'effectif de l'année dernière. Barça a notamment perdu Messi,
Mais non, mais ils
Griezmann,
ont
même
perdu
si.
Messi, Ronaldo et Lukaku, les
Et
trois
Lukaku,
équipes.
voilà.
Donc voilà,
Donc
donc
déjà,
leurs
ça
premiers
explique
joueurs, hein,
que.
globalement.
Alors, même si je suis le premier à dire, répéter et saouler tout le monde avec le fait que la soustraction est parfois une autre forme d'addition, là, je pense que la soustraction est un peu costaud. Peut-être pour la Juve un peu moins, à la
C'est vrai.
rigueur. Mais pour le Barça, oui, on a du mal à imaginer que cette équipe ait un avenir radieux. En Ligue des Champions, évidemment, l'Inter, c'est décevant. D'ailleurs, on aurait bien aimé que Lukaku
C'est vrai.
reste parce qu'il y avait quelque chose qui avait été construit. Donc voilà, une étoile, ça paraît difficile d'aller plus haut. Un peu plus haut, on a les équipes à deux étoiles. Alors là, c'est le recordman et l'autre équipe qui la gagne plus que de raison. C'est le Real Madrid et Liverpool, Martin.
Deux équipes qui sont gagnées par une certaine forme d'usure pour moi. Le Real qui n'a pas réussi au mercato à attirer Kylian Mbappé, qui aurait donné à la fois du sang neuf et une nouvelle dynamique au projet. Donc on va rester avec des joueurs qui ne sont pas forcément emballés par ce projet-là. Je pense à Bale notamment. Un Hazard qui, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, c'est très compliqué aussi. Casemiro, Modric, tout ça prend beaucoup d'âge. On a perdu derrière le patron, évidemment, Ramos. On a perdu Varane aussi. Alors Alaba est arrivé, mais malgré tout, on voit quand même une forme là aussi de déclassement d'un Real Madrid qui est dans une saison peut-être de transition avant un gros mercato l'année prochaine. Et donc ça va être très difficile d'aller au bout de ses ambitions en Ligue des Champions. C'était déjà compliqué les années précédentes, mais là ça semble vraiment dur. Pareil du côté de Liverpool qui déjà l'an dernier en Première Ligue avait s'était raccroché à la Ligue des Champions vraiment in extremis, mais on sent que le système Klopp a du mal à se renouveler aussi, le casting aussi. Donc c'est pour ça qu'on a deux équipes qui sont sur une forme d'immobilisme, alors que ceux qui sont au-dessus ont mis les moyens pour aller plus haut, pour insuffler une nouvelle dynamique, et c'est pour ça qu'on leur a mis que deux étoiles.
Ouais, parmi les trois étoiles, c'est deux équipes qui se sont renforcées cet été et une aussi qui est championne d'Espagne en titre. C'est Manchester United et l'Atlético Madrid à trois étoiles. À Manchester United, déjà, d'un point de vue individuel, c'était plutôt pas mal. Ils ont rajouté Sancho, ils ont rajouté Varane, ils ont rajouté évidemment Ronaldo, vous ajoutez Pogba, vous ajoutez Fernandez. C'est plutôt pas mal sur le papier. Est-ce que cette équipe est de taille à être championne d'Angleterre? On verra. En tout cas, c'est peut-être l'équipe de Manchester United la plus, on va dire, excitante de ces dernières années parce que voilà, le recrutement est XXL et si tout fonctionne bien, ça pourrait plutôt être pas mal. Quant à l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui a récupéré, on l'a vu à la dernière minute, Antoine Griezmann qui ne s'est pas fait dépouiller. Si on retrouve l'Antoine Griezmann, cheveux courts, qu'il était auparavant l'Atlético, je pense que ce sera un plus. Et cette équipe est en place, tout simplement. On a vu le déclassement des deux géants d'Espagne, le Real et le FC Barcelone. Ben, l'Atlético, justement, est rentré, on va dire, dans le gouffre qu'il y avait entre les deux. C'est toujours l'école Simeone qui avait un peu évolué l'année dernière quand même, mais qui garde quand même quelque chose de très argentin, de sa culture qu'il fait depuis qu'il est au club, ça, depuis une décennie. Donc cet Atlético Madrid fait partie. Il est peut-être pas au niveau de l'Atlético du tournant des années 2010, c'est-à-dire autour de 2015-2016, et je pense que c'est un outsider très très sérieux dans la quête de la Ligue des Champions.
Les 4 étoiles maintenant, et on a choisi 3 équipes. Chelsea, le Bayern Munich et Manchester City. Donc là, vous l'aurez compris, on est sur des équipes qui, déjà l'année dernière, un quart de finaliste et deux finalistes. Pourquoi le Bayern? Parce que le Bayern, c'est aussi simple que ça. Rappelez-vous qu'avant l'élimination face au Paris Saint-Germain, c'était l'ultra favori à la Ligue des Champions. L'équipe n'a pas bougé. Alors, ils ont perdu David Alaba, mais malgré tout, ça reste. Voilà, c'est le Bayern, c'est cohérent. Ça se renforce très bien aussi l'été et de façon intelligente. Alors, pas aussi spectaculaire que le Paris Saint-Germain ou que Manchester United, mais les bases sont solides. C'est le Bayern Munich. Voilà. Donc, naturellement, c'est un favori. On a rajouté évidemment Manchester City, finaliste l'an dernier, j'allais dire demi-finaliste. Finaliste l'an dernier, Manchester City qui a récupéré Grealish avec Pep Guardiola qui marche très bien en Première Ligue, champion d'Angleterre en titre, Manchester City. Il y a tout ce qu'il faut aussi du côté de City, il y a un effectif absolument pléthorique, il y a de quoi faire, et puis Guardiola, et on va terminer avec Chelsea. Chelsea qu'on n'avait pas mis si haut si on avait fait les mêmes pronostics l'an dernier, mais qui a prouvé avec Thomas Tuchel et le tournant justement de cette année 2021, qu'il y avait là aussi un effectif capable d'aller très très haut. On y rajoute Lukaku, le champion d'Europe, le vainqueur de la Ligue des Champions en titre, va être plus qu'un outsider, va être l'un des favoris. Prenez le vainqueur de la Ligue des Champions, vous y ajoutez Lukaku, l'un des meilleurs attaquants du monde. Donc c'est déjà aussi simple que ça. Reste à savoir si Tourelle réussira à maintenir une dynamique, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué quand on a terminé tout en haut, maintenir cette dynamique, mais en tout cas avec Kai Havertz, avec tous les joueurs Kanté et compagnie, il y a de quoi faire. Et Maxime, ouais. Tu veux rajouter quelque chose sur les
cartes? Oui, je rajoute un mot sur Chelsea, c'est qu'il y a une vraie culture européenne qu'on a aussi. Vu l'an passé. C'est une équipe qui était hyper excitante sur le papier avec les jeunes, avec Werner, avec Havertz, et finalement ils ont mis du temps, et c'était moins bien que ce qu'on imaginait en Première Ligue. Tourelle est arrivé, il a construit une vraie équipe qui allait gagner la Ligue des Champions. Je pense vraiment à la culture que Manchester City est en train de gagner au fur et à mesure. Ils peuvent en vouloir un peu à Pep Guardiola sur la finale, son coup tactique avec Fernandinho, mais n'empêche que c'est une équipe qui est avancée. Moi, j'aurais mis 4 étoiles et demie, mais Adrien ne voulait pas mettre des demi, donc voilà.
À Manchester partisan, City.
Ouais, partisan du moindre effort. Écoute, donc on a accepté, voilà. Et puis comme tu as dit, Bayern, c'est Bayern, voilà. Et 5 étoiles, évidemment, au regard des promesses du recrutement, évidemment le Paris Saint-Germain, tout simplement, avec évidemment Lionel Messi, mais au-delà de Messi et évidemment de ce trident offensif, puisque Mbappé est resté, Neymar est toujours là, c'est presque ce qui a été acheté à côté qui me dit que le PSG a une tête de favori pour une raison simple. Alors évidemment, Ramos a des petits problèmes de mollet, donc ça va falloir voir.
On peut se dire qu'au mois de mars, ce sera peut-être résolu.
Oui, peut-être, mais il faut espérer que le Paris Saint-Germain ne soit pas allé le chercher beaucoup trop tard. Mais pour la première fois, alors évidemment, Messi a un peu caché tout ça, ce clinquant de Messi, mais l'impression que le Paris Saint-Germain n'a pas fait que dans le clinquant. Alors évidemment, Ramos, c'est clinquant, c'est le meilleur défenseur de la décennie, mais c'est aussi un guerrier, c'est aussi un chien sur le terrain, c'est ce qui a souvent manqué au Paris Saint-Germain. Wijnaldum, c'est pareil, c'est pas forcément brillant, mais c'est un joueur de l'ombre. Hakimi, c'est encore autre chose, ils ont sûrement réglé beaucoup de problèmes sur le côté.
Voilà, exactement.
Et puis évidemment, Messi, voilà. Le grand défi du PSG, tout simplement, ça va être réussir de faire une équipe de tout ceci. Si Paris Saint-Germain y parvient avec Pochettino, ce sera très 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 fort, à n'en pas douter. Mais le défi est là. En tout cas, pour nous, c'était notre favori assez évident. On a fait le classement pendant 8 heures, à partir de 4 heures du matin. Et on a eu beau tourner le problème dans tous les sens, c'était le PSG qu'on mettait devant.
Voilà, bah dites-nous, vous aussi, hein, venez nous chercher sur Twitter. Vous venez très souvent chercher Maxime, il adore ça. Titillez-le. Insultez-le même, il adore Maxime quand on l'insulte un petit peu en privé, hein, pas en privé, pas en public. Mais non, mais venez débattre avec nous de ce classement-là, que ce soit en podcast, sur les plateformes de podcast, sur Twitter. Venez, n'hésitez pas. Maxime, on a fait le tour et en plus là, il est 15h47, je crois qu'à 15h48, sur France 3, il y a Derrick qui démarre. Donc faudrait pas que ça dure trop. Cela dit, si tu arrêtes le premier quart d'heure, comme il se passe rien, tu peux arriver au bout de 20 minutes, t'as compris.
D'ailleurs. On aurait pu parler de Colombo aussi. Mais Colombo, ça repasse d'ailleurs.
Et Navarro.
Ah, mais Colombo.
Nestor Burma, Maxime.
Non, je n'ai jamais regardé ça. Mais Colombo, c'est quelque chose aussi. Déroulé. C'est quand même une série où tu connais le meurtrier au début de l'histoire. Il y a quelque chose de social dans Colombo. Je vous laisse analyser tout ça. C'est toujours le petit flic contre la haute bourgeoisie, voire la noblesse américaine. Et c'est, d'un point de vue social, c'est toujours très intéressant à regarder.
On pourrait faire un podcast spécial série un jour.
Ah ouais, moi j'adorerais.
Très très chaud, pour parler de la croisière s'amuse. Hein. Ouais, ouais. Je suis très 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 chaud, Maxime. Mais en attendant, la semaine prochaine, on se retrouvera pour le FC Stream Team. Je suis désolé. On parlera peut-être d'Art Laker à vif. On parlera peut-être de Beverly Hills. Qui sait, Maxime. Alors je vous fais juste. Maxime, regardez.
Tu l'as dit.
Alors il avait sa petite boucle d'oreille, sa petite chaîne en argent, sa petite nuque longue. Il se croyait à Beverly Hills alors qu'il était dans le Val d'Oise, mais ça le faisait voyager, Beverly Hills. Il avait l'impression d'être en ville, Maxime.
Il n'y a qu'une chose de vraie dans les trois assertions que tu viens de dire.
La boucle d'oreille.
La boucle d'oreille. Non, mais... pareil, là, il y a un truc que tu ne rends pas compte, c'est qu'Art Laker à vif, je pense que tu, parmi les gens qui nous écoutent, là, tu as déjà lâché.
Ah aussi, oui,
il
n'y a personne.
Tu as lâché un peu de monde, quand même.
Ouais, ouais. Bon, on est vieux, Maxime.
Avec Drazik.
Drazik. Il était beau, Drazik, hein. Ah ouais, il était beau. On se retrouve la semaine prochaine sans Drazik, mais avec Maxime Dupuis. Et moi, personnellement, je préfère. Adrien Yo et Quentin Guichard seront toujours là. C'est mieux que Screech et Kelly Kapowski. Et si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire, c'est bonne nouvelle, c'est que vous êtes très jeune.
Et voilà. Si vous... J'aimerais bien d'ailleurs, Adrien, avant de finir, qu'on change le générique de l'émission pour mettre le générique de Derrick.
Ah,
qui est beaucoup plus rapide que, la série.
On pourrait ? Allez, on pourrait. Allez, on se quitte tout de suite avec Derrick et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.